Interview.
2 RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Julie Kiss. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec toi, que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir il y a déjà peut-être même 2 ans, il me semble, hein, à cette antenne, on avait abordé un peu toutes tes activités, notamment tout ce qui est lié à la danse et puis la méthode Feldenkrais. On va se faire un rappel de tout ça, si tu veux bien, d'abord peut-être, tes activités.
Alors, moi, je suis principalement danseuse. C'est mon métier de base, on va dire. Surtout dans des compagnies spectacles de rue.
On peut la citer, par exemple.
Alors, il y a la compagnie S, ouais, avec laquelle on a plusieurs spectacles. Sandunga, Cortège et les Bryan Brothers. Cortège, c'est la nouvelle création. Et avec la compagnie Crazy Dolls, qui est aussi une compagnie de spectacles de rue.
Qu'on a peut-être un peu moins vu dans le secteur, si.
Qu'on n'a jamais vu par ici, parce que c'est une équipe, une assez grosse équipe, parce qu'on travaille avec des danseuses amateurs qu'on forme tout au long de l'année, depuis plusieurs années, presque 10 ans maintenant. Et on a une équipe de 7 musiciens professionnels, on est 2 danseuses formatrices et 15 de danseuses amateurs. Donc c'est vrai que ça fait des grosses équipes et que dans le coin, on n'a pas eu l'occasion de jouer.
Est-ce que ça fait d'ailleurs que ça change tous les ans, vous arrivez à garder le même nombre de danseurs amateurs ou...
On a une équipe de base qui est assez stable. Donc après, il y en a qui arrêtent parfois pour différentes raisons, parce que ça demande aussi un assez gros investissement de la part des danseuses. C'est des répètes régulières, c'est des prestations où on part des fois loin, on rentre tard, des fois on dort sur place. Donc voilà, c'est un sacré investissement pour les danseuses. Donc voilà, ça arrive qu'il y en ait certaines qui arrêtent du fait de leur vie personnelle en général. Donc on essaye de faire rentrer des nouvelles recrues régulièrement. Et puis on a quand même une équipe qui est vraiment stable depuis une dizaine d'années.
Ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas d'incidence sur le fait que vous puissiez vous programmer quand même avec des spectacles qui, du coup, changent peut-être pas forcément beaucoup.
Non, on garde le même spectacle là, avec les danseuses amateurs. Non, au contraire, on a une base assez fixe parce qu'on ne peut pas changer tout le temps.
Et puis, alors après, il y a des cours de danse aussi.
Voilà, j'ai un cours de danse africaine à l'espace social de Die. Très chouette parce qu'avec une belle équipe de musiciens, balafon, doum, djembé, basse, parfois guitare. C'est une chouette expérience aussi.
Un atelier donc de l'espace social, ouais. Il faut s'inscrire là-bas en début d'année.
Voilà, c'est ça. C'est,
quel est le début de l'année d'ailleurs? C'est septembre plutôt?
C'est souvent fin septembre.
Ouais. D'année scolaire quoi.
Ouais, d'année scolaire.
Mm-hmm. Petit détail, combien d'élèves?
Il y a eu 13 inscrits cette année. Alors en fin d'année, c'est toujours un petit peu, il y en a qui lâchent, puis il y en a qui n'ont pas envie de faire le spectacle de fin d'année, donc qui arrêtent.
Il y a un spectacle.
Voilà, alors justement, il y a un spectacle le 30 mai pour la fête de l'espace social au théâtre de Die. S'il y en a qui veulent venir voir, c'est ouvert.
Allèche-nous, ça va être quoi comme spectacle?
Il y aura Chant du Monde, il y aura Danse Orientale, je crois, et puis nous, Danse Africaine. Et puis tout l'après-midi, il y aura aussi des choses devant le théâtre. Je crois du cirque, il y aura la présentation des ateliers de cirque de l'espace social.
Et plus particulièrement sur ton atelier
Ça va être des danses qu'on a travaillées cette année.
Voilà. Démonstration un peu.
Voilà.
Pas une mise en scène particulière.
On a essayé de faire un petit peu plus joli, quoi. Ouais. Faut venir voir.
Abi mama de Luca bisote abi belle no se bimont abi mama bandele abi mama de Luca bisote abi belle no se bimont abi mama bandele abi papa bandele abi mama de Luca bisote abi belle no se bimont abi mama bandele abi mama
méthode Feldenkrais, je le gardais pour la fin parce que finalement, c'est là où tu vas nous en redire le plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi donc ?
Alors, c'est une méthode somatique de prise de conscience par le mouvement et qui a été créée par un monsieur qui s'appelait Moshe Feldenkrais, qui a vécu de 1904 à 1984. C'était un physicien. Il a travaillé avec Pierre et Marie Curie, par exemple. Il a travaillé à la Sorbonne. Il était aussi judoka. Il s'est beaucoup intéressé au judo. Ça a été une des premières ceintures noires de judo de France. Et en fait, il s'est blessé à un moment donné au genou. Et il voulait se faire opérer. Mais à l'époque, cette époque-là, les opérations n'étaient pas forcément très concluantes. Donc, il a décidé de ne pas se faire opérer et de chercher par lui-même comment il pouvait s'organiser avec ce genou blessé. Et pour ça, il s'est intéressé aux neurosciences. Il s'est intéressé au développement de l'enfant, développement moteur de l'enfant. Il s'est intéressé aussi à tout ce qui est théorie des masses. Il a utilisé aussi toute sa connaissance en arts martiaux et cette idée d'avoir un mouvement qui soit efficace, avec le moindre effort possible. Et il a créé sa méthode.
Et quand on parle de neurosciences, ça me fait penser à la gestion qu'on peut avoir de la douleur.
Non, la neuroscience, c'est ce qui va étudier les fonctionnements du cerveau.
Là, en l'occurrence, par exemple, pour son problème de genou.
En fait, ce qui l'a intéressé, c'est de se dire qu'il fallait donner au système une possibilité d'apprendre des nouveaux schémas de fonctionnement qui lui permettent de fonctionner avec ce genou endolori. Il s'est intéressé aux neurosciences dans la mesure où la méthode Feldenkrais est une méthode d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à accomplir un mouvement, tel ou tel mouvement, et puis une fois qu'on l'a accompli, ça y est, on est content. C'est vraiment pas l'idée. Les mouvements, ils vont être une source d'exploration pour donner au système nerveux une possibilité d'apprentissage par rapport à ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire qu'au départ de notre vie, on a d'infinies possibilités qu'on réduit petit à petit dans notre apprentissage des mouvements de la vie de tous les jours pour être efficace. Mais en réduisant cette marge de possibilités, finalement aussi, on se cantonne à des mouvements qui ne sont pas forcément toujours les meilleurs, pas toujours les plus efficaces. Et on oublie, entre guillemets, les autres possibilités qu'aurait le système. En fait, le système, il a une possibilité infinie dont la seule limite est la structure osseuse, la structure du corps. Mais sinon, les possibilités sont infinies.
Un peu la pesanteur aussi.
Oui, mais on utilise ça.
Ah oui.
Et donc voilà, en fait, c'est une méthode qui va redonner au système des possibilités de connexion synaptique, en fait, d'apprentissage, pour pouvoir réouvrir les champs du possible au niveau du mouvement. Déjà au niveau du mouvement.
Alors ça me fait penser à une chose, notamment, pour les citer, hein, on peut aller voir des ostéopathes qui vont parfois dire « Ah là là, ça va faire quelque temps que tu as pris une position de réchappe, enfin où le corps a pris déjà une forme pour ne plus se faire autant de mal qu'avant ou pour se sortir d'une situation. » Est-ce que c'est un peu ça, Feldenkrais, ou au contraire ?
Si une personne vient nous voir, par exemple, en séance individuelle et qu'elle nous dit « j'ai mal à tel endroit », nous, finalement, on ne va pas se focaliser sur le symptôme de la personne. Parce que le symptôme, ça va figer la personne dans son symptôme, en fait. J'ai une petite citation là de François Roustan. « Ce qui se passe lorsque l'attention a été focalisée sur le symptôme, c'est faussé. » Le patient sera enfermé dans la généralité d'une notion clinique, vêtement trop grand ou trop étroit pour lui, en tout cas qui le cache dans ce qu'il a de plus personnel.
D'avoir découpé toutes les...
Voilà, on dit c'est telle chose. Et en fait, on va essayer plutôt de voir la personne dans sa globalité et dans la globalité de son fonctionnement. Et souvent, une douleur, c'est le signe d'un fonctionnement et non pas d'un dysfonctionnement. Et à partir de là, on va essayer de voir qu'est-ce que la personne pourrait apprendre qui pourrait lui permettre de s'organiser différemment et qui fasse que cette douleur, en conséquence, on l'espère, s'en aille.
Dans le cas très concret de ce monsieur Feldenkrais qui donc a le genou en vrac, ne peut plus sans doute exercer comme il le voulait du judo, voire avoir des problèmes à se déplacer, qu'en plus il se fera pas opérer, ce qu'on pense être une solution, donc ça peut aller vers une dégradation encore de son état. Pour revenir à ma question de départ, est-ce que son corps va prendre une autre direction, tu vois, quand tu parlais de
oui, il va prendre une autre direction, mais en fait ce qu'on va rétablir c'est la fonction. La fonction, par exemple, de la marche. Et si on rétablit la fonction, même des tissus abîmés peuvent se réparer parce que ça part de la fonction, ça part pas du tissu abîmé. On va rétablir une fonction, comment cette personne, elle peut marcher. Et à partir du moment où on a rétabli la fonction, on suppose que ça va se réparer en fonction. En fait, c'est une technique qui est vraiment très...
On s'en fout du genou, de la cheville, de n'importe quoi, peu importe. L'objectif, c'est de marcher.
Voilà. Quelque part, oui. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On ne va pas se focaliser, tiens, c'est son genou, on va rester bloqué là-dessus. Non, c'est une personne en entier, comment elle peut faire ce qu'elle veut faire. Si c'est marcher, c'est marcher. Peut-être c'est se tenir assise. Peut-être c'est faire tel mouvement de danse ou de sport. Voilà, et on part vraiment de faire où la personne veut aller et quelle fonction elle veut pouvoir utiliser.
Julie Kiss sur la méthode Feldenkrais qu'on vient de décrire sur le principe, je pense que comme ça on a compris, et maintenant sur la méthode, puisque si c'est une méthode, c'est qu'il y a un process.
Alors bon, déjà dans la méthode, il y a deux façons de procéder. Il y a des cours collectifs qu'on appelle PCM, prise de conscience par le mouvement, où donc c'est collectif. Et là, souvent, la personne qui mène le cours, donc moi en l'occurrence, guide les participants à faire des mouvements souvent très très simples. Donc au départ, les mouvements, ils vont permettre de sentir comment on fonctionne, quel est mon fonctionnement, et essayer d'arrêter aussi de se juger, tiens, il faudrait que je sois plus comme ça, ou on m'a dit qu'un jour que je tournais trop la tête et à droite et pas assez à gauche, tout ça de mettre de côté, juste observer, mieux se connaître aussi par ce biais-là.
Est-ce que c'est d'ailleurs un temps où toi-même, tu peux comme ça identifier chez les gens, ou c'est vraiment une démarche que tu leur laisses faire et c'est à eux de trouver ?
Ouais, c'est à eux de trouver. D'accord. Ça fonctionne beaucoup par questionnement, en fait. Je n'ai pas à intervenir là-dedans. Je peux, en voyant certaines choses, reposer des questions qui, si je sens que quelque chose n'est pas très clair, je peux rajouter une question pour permettre à la personne d'aller plus ou moins dans cette direction. Mais je n'interviens pas. Et ensuite, il y a dans le cours des leçons, et ça c'est des leçons qui ont été créées pour la plupart par Moshe Feldenkrais dans ses différentes formations et dans ses différents cours. Mais après, avec ces leçons, on a aussi toute liberté de recréer. Enfin bon, bref, ça c'est des leçons que les formateurs font à leur sauce et que nous-mêmes, on peut retravailler. Mais disons qu'avec une base de leçons, on va proposer des variations à ces premiers mouvements proposés, qui permettent soit de clarifier comment les différentes parties du squelette, par exemple, peuvent se mettre en mouvement pour faciliter le mouvement, soit au contraire que telle partie elle peut rester au repos et que c'est telle autre qui peut se mettre en mouvement. Voilà, ce sont des variations qui permettent tout ce jeu-là d'éclairage subtil, soit de la globalité, soit de différentes parties, pour que au final, on puisse avoir un mouvement mieux réparti dans le squelette le plus souvent, ou au contraire, qui ait pu mettre en jeu des parties du squelette qu'en général, on sous-utilise. Parce que chacun, on a des parties qu'on utilise beaucoup et des parties qu'on utilise peu ou pas. Et donc, comment on va pouvoir aussi redonner des mobilités fines à certains endroits qui permettent ensuite de mieux s'organiser dans le mouvement.
Et quand tu parles du squelette, c'est le squelette, vraiment la composante osseuse, voilà. Ou aussi ses muscles et...
En Feldenkrais, on va vraiment vers la conscience du squelette. Parce que le squelette, c'est vraiment à la fois ce qui nous donne notre force. Ce n'est pas les muscles qui nous donnent notre force, c'est la stabilité du squelette, la possibilité de bien faire voyager le mouvement dans le squelette. Et après, les muscles, ils sont là juste pour s'adapter et faire bouger le squelette en fonction de nos intentions. Et puis, ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on va vraiment vers cette conscience du squelette, parce que c'est ça la base de notre mouvement. Et en plus, parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de sentir le mouvement des os les uns par rapport aux autres que vraiment d'identifier les muscles qui sont des insertions compliquées. Enfin, voilà, ça serait presque trop compliqué, en fait. Donc, on va vraiment vers cette conscience du squelette. Parfois, on peut évoquer certains muscles, mais ça reste... c'est pas le principal, disons.
Du coup, je me permets une petite digression, mais on a un muscle qui est situé à l'arrière du bras.
À l'épaule, ouais.
Donc, on a le muscle de devant, le biceps qu'on connaît bien.
Ouais.
Et puis, il y en a un derrière qui est tout droit. Et ce muscle-là met une vie entière à se muscler. Et il est dit que c'est un des muscles les moins employés. Est-ce que ça veut dire qu'on a complètement oublié cette partie-là du corps? Tu vois, il est tout fin. Hein. Les auditeurs vont toucher là, comme ça leur arrière-bras.
Voilà. Arrière-bras.
C'est un muscle tout petit qui finalement moins utilisé au profit du biceps, qui va à la fois faire fonctionner l'avant-bras, mais aussi lever avec les muscles de l'épaule le reste du bras, alors que celui de derrière devrait servir juste à baisser le bras, quoi.
Quand on a le bras plié, à ramener le bras.
C'est ça. Voilà. Rabaisser le bras.
Ouais. Et c'est vrai que rabaisser le bras, on peut le faire aussi par la gravité. Donc,
est-ce que après, là, il n'y a pas une...
Mais l'idée, c'est la fonction. Est-ce que je veux tendre mon bras? Il faudrait voir la personne, il faudrait voir ce qu'elle fait. Ouais. Faudrait voir...
Bon, je dis ça, c'est parce que je connais quelqu'un qui a vécu ça. Bon,
ouais.
Digression faite à part, bah, ça me permet une autre question toute faite, finalement. Quel est ton public?
Non, parce qu'il y avait aussi l'autre forme, l'autre façon de pratiquer le Feldenkrais.
Ah ouais,
j'ai parlé des séances collectives, des cours collectifs, et il y a aussi les séances individuelles. Donc là, qu'on pourrait rapprocher d'une séance d'ostéopathie, par exemple. Donc, les personnes viennent nous voir individuellement avec souvent une question qui, bon, le plus souvent, il y a une douleur, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, mais qui pourrait être aussi dans l'idée, être liée avec le fait de mieux s'organiser. Imaginons un sportif, par exemple, qui voudrait augmenter ses capacités. Il pourrait aller voir un praticien Feldenkrais pour voir ça. Bon, donc, ce n'est pas forcément... que lié à une douleur. Mais donc, là, les gens, on les rencontre en individuel. Ça, on travaille par le toucher. Et alors là, c'est vraiment lié à ce que la personne désire, à sa demande.
Par le toucher, ça veut dire que tu fais faire les mouvements?
Je les amène, c'est moi qui les initie, la personne, et on peut dire inactive, sauf si parfois je lui indique un mouvement à faire. Mais voilà, c'est moi qui vais lever un bras ou... lever une épaule.
Et là, encore une fois, dans le but que la personne sente vraiment son épaule bouger alors que justement, elle ne fait pas travailler ses muscles.
Pour lui indiquer
un chemin qui
est peut-être différent que celui qu'elle a l'habitude d'utiliser. Imaginons quelqu'un qui a toujours mal à l'épaule, par exemple, si on reprend cette idée de l'épaule. Ben, la personne vient, elle a tout le temps mal là. Et donc, moi, je vais me demander comment elle fonctionne, quel est son fonctionnement qui fait qu'elle a cette douleur-là. Ça peut être plein de choses. Et comment on peut trouver ensemble un autre schéma de fonctionnement que celui qu'elle utilise qui, a priori, lui fait mal.
Et alors, comment on en vient à casser les habitus? Parce que le corps va faire pendant des mois, des années peut-être, le même type de mouvement que tu vas identifier, donc par le biais, par exemple, d'une rencontre en individuel, proposer un autre mouvement. Et alors là, comment on le garde?
Et alors, on fait confiance à la... capacité d'autocorrection du système. C'est-à-dire qu'on est confiant et que le système, à partir du moment où il a reconnu une solution qui est meilleure pour lui, il est capable de la faire sienne et de la réutiliser.
Au bout de combien de temps alors?
Tout de suite.
Tout de suite.
Le système, il est plus intelligent que nous, si on peut dire.
Et donc en fait, il y a plein de choses. Ça casse même le rapport mental qu'il peut y avoir derrière.
Ça casse pas, ça vient... surajouter, enrichir. Il y a quelque chose dans notre système qui est beaucoup plus puissant. On parle... Bon, il y a le film Lucie qui est sorti, mais c'est des choses... c'était une façon de voir les choses. Mais de cette chose qu'on n'utilise qu'un très petit pourcentage des capacités de notre cerveau. Et on ne peut pas savoir ce qu'un cerveau est capable de générer, en fait. Et à partir du moment où on lui propose une solution... le cerveau, le système, il va la concrétiser. Et très souvent, ça dépasse ce qui peut être vraiment de la conscience de la personne ou même du praticien. Il y a quelque chose qui se passe entre deux systèmes qu'on ne peut pas mesurer, en fait, et qui est vraiment là lié à la capacité de vie du système et de l'être humain.
Toi-même, voilà, tu ne sais pas où vont aller les gens et eux-mêmes, à la limite, ils n'ont pas besoin de se poser cette question avant de venir, alors.
C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose... Toujours François Roustan, il dit « Nous partons du principe que toutes les personnes qui viennent nous voir sont bien portantes. » Et être bien portant pour une personne, c'est avoir une capacité de changement. À partir du moment où il y a cette capacité de changement, la personne, elle est déjà en train de changer, en fait.
Enfin... Il est souvent dit que d'avoir déjà fait le pas d'aller vers quelque chose de mieux, de se poser la question, c'est déjà la première démarche. Comme ça, je reviens un petit peu en arrière, où c'était trop tôt. Je voudrais qu'on identifie quel est ton public, mais de deux manières. Quel est-il réellement, là, avec ton expérience, et à quel public tu voudrais t'adresser, en fait, ou tu t'adresses ?
C'est vraiment tout public. En fait, on peut travailler avec n'importe quelle personne, à partir du moment où c'est une personne. Parfois, certains praticiens vont cibler et se spécialiser avec certains publics, par exemple des enfants, des prématurés. Ou... J'ai jamais travaillé avec des enfants, même en cours de groupe, j'ai pas de choses pour les enfants.
Ça dans t'intéresse mes
cours,
pas ou...
C'est que j'ai pas eu l'occasion pour l'instant, et bon. C'est quand même quelque chose de spécifique où je pense que ça demande aussi un petit peu de se former auprès des gens qui connaissent un petit peu d'abord avant d'aller explorer. Et j'ai pas encore fait ça. Dans mes cours de groupe, donc c'est tout public, il y a vraiment des personnes qui viennent parce qu'elles ont mal quelque part, par exemple, ça c'est typique. J'ai aussi des gens qui viennent par exemple parce qu'ils sont stressés. Après, j'ai des gens qui viennent, par exemple, des gens qui sont circassiens, qui viennent parce que ça leur fait un retour sur leur corps beaucoup plus doux que ce dont ils ont l'habitude, et ça leur permet aussi de retrouver parfois une meilleure utilisation de leur corps, qu'ils ont beaucoup l'habitude d'utiliser d'une certaine manière qui correspond à leur technique. J'ai des gens qui ont des choses un peu chroniques, comme de la polyarthrite rhumatismale ou des choses comme ça, qui ont besoin de garder du mouvement, mais qui ne peuvent pas faire des grands mouvements et des choses qui ont besoin de travailler très en douceur. C'est très varié et possible, tout est possible. Après, en séance individuelle, pareil, j'ai des gens qui viennent... parfois juste pour se faire du bien. J'ai des gens qui viennent, par exemple, en post-opératoire. Ça peut être du post-AVC, post-opération. Et j'ai travaillé aussi avec un monsieur en fauteuil roulant. On peut travailler avec des personnes âgées aussi. Enfin, voilà, tout ça, c'est possible.
Alors, comment vient-on te chercher ou comment tu fais connaître auprès de ces personnes-là?
Alors, pour l'instant, c'est beaucoup des gens que je connais ou des gens qu'on m'envoie, parce qu'effectivement, je n'ai pas encore beaucoup développé.
On pourrait imaginer qu'en sortie, même à l'hôpital, il y ait déjà comme ça une série de... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est quelque chose qui se passe après les actes médicaux.
Ouais, bah après, ce n'est pas forcément très... très reconnu par le monde hospitalier. Hein. Moi, j'ai travaillé là avec un monsieur qui venait de se faire opérer de la hanche. On n'a fait que des séances individuelles en post-opératoire. Le chirurgien était super content et quand il lui a dit que c'était par du Feldenkrais, bon. Et pourtant, c'est quelqu'un qui venait le voir et voilà, qui avait super bien récupéré. Donc,
allez hop, on en place
médical,
une petite.
Non, mais c'est vrai que c'est pas évident à la fois de faire connaître cette méthode qu'il est peu pour l'instant et puis d'avoir une place là-dedans. C'est pas évident, mais j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup travailler avec des personnes handicapées. J'ai un peu travaillé là-dessus, j'aimerais beaucoup, par exemple. Avec des personnes âgées aussi. Et avec les femmes enceintes aussi. Je vais proposer un stage, s'il y a des gens que ça intéresse, début juin, j'ai pas encore la date exacte, avec un petit groupe de femmes enceintes.
Très bien, voilà. Ça si, écoute... pourtant, tu es quand même rattaché, diplômé de Feldenkrais ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Rattaché à une fédération.
Ouais, c'est.
Dis-nous tout.
Ben, c'est Feldenkrais France qui est rattaché à Feldenkrais International, c'est mondial. Ouais, ça.
Et alors, avec le reste des corps médicaux, si on sort vraiment des médecins, des chirurgiens, des hôpitaux, on a cité l'ostéopathie tout à l'heure, j'ai envie même d'aller jusqu'au yoga, par exemple. Est-ce que tous ces courants-là reconnaissent quand même aussi cette activité?
Je pense que ceux qui connaissent le reconnaissent, oui. Après, tout le monde ne connaît pas, c'est toujours pareil. Hein.
Julie, sinon tu étais venue quand même pour nous annoncer quelque chose.
Oui, donc
parce
je fais un stage.
On parle pas comme ça de Feldenkrais pour rien.
Je fais un stage là le samedi 30 mai à l'espace social de 9h à midi, dont le thème va être une tête libre.
Ouais. Pourquoi?
Voilà, c'est le thème que j'ai choisi.
Bon.
Faut tout explorer, hein, mais. Et voilà, donc si...
Ouais, inscription...
Inscription...
À l'espace social,
à l'espace social, voilà.
Ouais, ok.
À l'espace social.
Et puis, donc, t'as annoncé un stage en juin, peut-être, pour les femmes enceintes.
Ouais,
mais
les femmes
est-ce
enceintes.
Est-ce que t'as d'autres, comme ça, d'autres...
Ben, pour cette année, non, mais pour l'année prochaine, je vais faire des mini-stages assez réguliers, je pense, deux par trimestre, qui pourront permettre à des gens qui peuvent pas parfois venir à des cours réguliers de venir. Je vais essayer de faire aussi un à deux plus grands stages dans l'année. J'en ferai aussi à Cray. Et peut-être que j'arriverai à avoir un créneau de cours le soir ou en début de soirée. Parce que pour l'instant, mes cours sont uniquement en journée. Donc, je sais aussi que, ça, que tout le monde ne peut pas venir en journée. Voilà, et j'ai aussi un cours à Luc le lundi soir à
6h30. Ouais, bah c'est voilà. Ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux nous redire tous tes cours comme
donc
ça?
Donc j'ai un cours à Luc le lundi soir à 6h30, un à 10 à l'espace social de 9 à 10 le jeudi et un à Cray le lundi entre midi et 2. Voilà, en cours régulier pour l'instant, c'est tout, mais j'espère bien en mettre un le soir l'année prochaine, je sais pas encore exactement quand.
Et quand on est en individuel, on prend rendez-vous avec toi.
Voilà.
Et ça, ça peut se faire à peu près
n'importe quand. Ouais.
Est-ce qu'on a tout dit?
Oui, juste ce que je voulais préciser, c'est que c'est une méthode qui est très en douceur, en fait, qui est vraiment dans le respect de soi et dans le respect des limites de chacun. C'est ce qui fait que ça peut vraiment s'adresser à tout le monde.
Bien que ce soit un sportif judoka qui l'ait monté, ce n'est pas sportif pour autant. Enfin, c'est
non,
pas, je veux dire... On n'est pas en train de suer sang et eau.
Ah non, c'est vraiment très doux et très calme parce que c'est dans le mouvement petit et lent qu'on peut trouver des subtilités qui nous permettent de fonctionner légèrement différent de nos habitudes.
Alors j'en profite pour t'avoir en même temps parce que Julie, tu l'as dit aussi, tu étais artiste dans la danse. Souvent quand j'ai des danseurs à cette antenne, il y a cette question d'avoir un moment donné tout arrêter dans la technique pour repartir sur des tout petits mouvements, le frémissement du poil, essayer de danser avec rien, ou l'air qui est là, ou le vide. Est-ce que cette méthode t'aide là-dedans? Est-ce qu'elle t'a permis de passer une étape, puisque tu parlais de circassiens qui viennent aussi
Moi, elle me permet surtout, je pense, des mouvements plus harmonieux qui se font plus, entre guillemets, naturellement. Tout d'un coup, un mouvement que je faisais parce que techniquement, j'avais appris tel mouvement, tout d'un coup, il devient logique. En fait, facile. Et je sens la structure squelettique qui s'organise autour. Et aussi, ça me permet de ne pas me blesser.
Ah oui.
Ouais. de pas me faire mal, de pas...
Parce que quand on parle de technique, en fait, c'est un truc qui est très brutasse. Pour faire tel mouvement, il faut le faire comme ça. Et on n'a aucun moment où on apprend à ce que le corps arrive à le faire. Quoi.
On fonctionne souvent par imitation.
On montre
un mouvement, puis on essaye de le faire. Après, pour moi, avoir conscience vraiment de son corps et comment ça s'organise, et plus c'est fin là-dedans, plus ça va permettre que cette technique, on la fasse de l'intérieur et non plus parce qu'on essaye de refaire un mouvement qu'on nous a montré. Ça, voilà. Il y a des logiques squelettiques qui s'organisent dans les mouvements de danse. C'est pas...
Ouais, parce que je fais une comparaison avec le jazz, par exemple, quand on a tellement potassé, au bout d'un moment, on arrive à se balader partout. Là, on pourrait se dire, tiens, on a la technique, on répète un milliard de fois le mouvement, et pour autant, on se fait toujours mal à le faire, quoi.
Ouais, parce que finalement, le potassage, ça serait le Feldenkrais, ça serait apprendre à se connaître. C'est ça la base. Après, par-dessus, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Pour moi, le Feldenkrais, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser comme base. Tu parlais de yoga, par exemple, il y a des choses super intéressantes en Feldenkrais parce que, par exemple, Moshe, il a travaillé sur deux bases de mouvement, la base de l'évolution de l'enfant, du petit bébé jusqu'à l'âge adulte, avec toutes les étapes, le rouler, le quatre pattes, le ramper, se mettre assis, se mettre debout, donc tout ça, toutes ces évolution-là. Et il a travaillé aussi sur toute une base de mouvements qui vient du judo, plus du judo ou des techniques orientales. Et donc, on a par exemple toutes des séries de leçons sur venir en appui sur la tête, mais qu'on fait par la sensation et pas parce qu'on se dit, oh, tiens, je vais me mettre sur la tête. Et donc ça, c'est des choses qui pourraient très bien être comme si on donnait la substance de base et qu'après, tout peut se faire après avec ça.
C'est une belle conclusion.
Voilà.
Julie Kiss, donc, sur la méthode Feldenkrais. Je vais mettre tous les liens de tout ce qu'on vient de dire sur la page internet de cette émission. Donc ce stage, rappelle-moi la date quand même. Et rappelle-le aux auditeurs.
C'est le 30 mai de 9h à midi à l'espace social.
Donc inscrivez-vous quand même un peu vite.
Et c'est 30 euros.
Voilà, c'est fait. À bientôt quand tu veux sur cette antenne pour d'autres...
aventures.
Ouais. Salut.
Salut. Interview. Okay. Bye bye.
L'interview du jour.